Radio Starbucks.
Morning Edition from NPR News.
Un sentit de la radio.
Radio Resonative Radio.
Que se reproduce en la radio.
France Inter, le 18-20.
Il y a des jeunes filles qui ont le rêve de venir en Europe, mais ils n'ont aucune idée.
Et nous sommes en Côte d'Ivoire. Ce sont les Italiens qui ont monté des structures qui évitent à certains de se jeter dans une émigration incertaine. On leur offre une alternative. Vous découvrirez ça avec nous sous les radars. Et Amélie Perrier, vous l'avez entendu en Pologne, en Italie, au Japon ce soir. 18h50, la chronique pour tous de Julia Foyce qui nous parlera de talons au Japon, encore eux, et de Belle au bois dormant qui réclame qu'on la laisse dormir. 18h55, Le Monde à l'envers et Franck Madvon avec cette vidéo de Baghdadi qui essaie sans doute de nous dire que l'État islamique est bien là et on s'en doutait un peu à vrai dire. Avant cela, allons donc changer d'air. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
C'est pas donné à tout le monde dans une vie de japonais que d'assister à un changement d'air, que d'assister surtout à une abdication d'empereur. Là, pour le coup, c'est la première depuis 2 siècles. Et ça s'est passé, au fond, de manière incroyablement simple. Je voudrais d'abord qu'on écoute ceci. C'est le Premier ministre Shinzo Abe.
En vertu d'une loi spéciale relative au code de la maison impériale, en ce jour, l'empereur abdique.
Voilà, et voici maintenant l'empereur qui cède sa place à Akihito. Voici ce qu'il a dit.
Au cours des 30 années passées depuis mon intronisation, j'ai pu remplir mes obligations grâce à la confiance et au respect que m'a accordé le peuple. Ce fut une période heureuse. Je remercie du fond du cœur le peuple qui m'a accepté en tant que symbole de l'État et m'a soutenu. Avec l'impératrice, nous prions du fond du cœur pour que la nouvelle ère Reiwa qui commence soit une ère paisible et radieuse.
Et bonsoir Karine Nishimura.
Bonsoir Fabienne, bonsoir tout le monde.
Ce petit décalage parce que vous êtes loin, vous êtes au Japon, c'est vous qui allez nous raconter non seulement ce qu'on vient d'entendre mais ce qui va se passer derrière. Mais il y a quand même quelque chose qui m'intrigue terriblement, c'est tout ce qui s'est passé au fond, un changement d'air, une abdication, ça se passe aussi simplement que ça?
Alors, c'est tout pour aujourd'hui et c'est tout pour ce qu'on peut voir, en fait, parce que l'essentiel se déroule dans le secret. C'est un très très long cérémonial, en fait, quasi religieux, qui répond à des règles qui sont extrêmement difficiles à comprendre. Et d'ailleurs, elles sont pas faites pour être comprises par le grand public. Ce sont des événements qui vont s'étaler sur des mois et des mois, avec un autre point culminant qui aura lieu à l'automne, en présence de nombreux chefs d'État et invités prestigieux. Et tout ça, en fait, ça répond à un ensemble de rites liés aux croyances Shinto, qui est une quasi-religion, un animisme japonais.
Donc on est entré...
Alors ils font bien comprendre, en fait, aussi, que la famille impériale, en fait, elle vit dans un autre monde, et que les 10 minutes, là, en fait, c'est 10 minutes de lenteur. Hein, c'est 10 minutes qui durent pour eux un moment très long de protocole et avec une préparation qui, elle, prend des heures carrément.
Alors, on est donc entré dans cette nouvelle ère, j'adore les 10 minutes de lenteur en quelque sorte. Naruhito qui succède à Akihito, est-ce que les Japonais ont suivi ces fameuses 10 minutes-là presque religieusement, justement, comme vous dites, Karine? Est-ce que le Japon s'est arrêté ou pas, au fond?
Alors quelque part oui, le Japon s'est arrêté parce qu'on avait des millions de Japonais qui étaient les yeux rivés devant leur télévision pour voir avec une très très forte émotion cette cérémonie. Et je dirais heureusement qu'elle était que de 10 minutes parce que sinon c'était pas regardable, voilà. Et donc il y a eu ce moment fixé comme ça pour tout le monde. Mais à vrai dire, la chaîne publique NHK, elle a tenu l'antenne pendant 15 heures pour ces 10 minutes-là. Et c'était vraiment un moment de traversée d'une autre époque pour les Japonais.
Est-ce que c'est vraiment ça effectivement qu'ils ressentent, l'idée de la traversée d'une autre époque, l'idée que dans une vie d'homme au fond au Japon, on ne vit pas un moment comme ça deux fois? Est-ce que c'est ça aussi qui traverse l'esprit d'un Japonais aujourd'hui?
Ah oui, très clairement, parce que si vous voulez, l'unité de l'ère, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans un autre pays. Hein. Elle est suffisamment longue, en fait, pour qu'on voit tous les changements qui peuvent se passer, tous les changements importants, pour qu'on puisse se remémorer beaucoup d'événements qui ont eu lieu. Si vous voulez, si vous prenez un mandat présidentiel, par exemple, c'est trop court pour ça. Et c'est en ça que les ères ont une grande importance pour les Japonais, parce que elles résument tout un tas de choses, toute une période et tout un flot de changements qui interviennent dans cette période.
Mais est-ce que ça veut dire qu'on compte en ères aujourd'hui? Est-ce qu'on ne se donne pas rendez-vous en ères, mais est-ce qu'on compte ces anniversaires en ère impériale plus qu'en calendrier finalement?
Alors oui, l'ère impériale, en fait, elle fait partie du quotidien des Japonais. C'est pas simplement exotique pour le symbole, c'est vraiment tous les jours on utilise l'ère impériale, ne serait-ce parce que on va remplir un document administratif, un document scolaire. Donc en fait, quand on écrit sa date de naissance, eh bien on l'écrit en ère impériale. Depuis que je vis au Japon, je ne suis plus née en 1970, je suis née en l'an 45 de l'ère Showa, et mes enfants sont nés en 24 essais et en 29 essais. Voilà. Donc c'est vraiment du quotidien.
Et pour qu'on comprenne l'importance de ces ères, est-ce que ça veut dire chez vous au Japon, Karine? Vous avez rencontré pour nous Eishi Mirashiro, il est historien, et voici comment il nous explique comment ces choses-là fonctionnent.
En théorie, on change d'air quand on change d'empereur, mais cela n'a pas toujours été le cas. Avant 1868, le nom d'air pouvait changer maintes fois sous le règne d'un même souverain. Par exemple, en cas de désastre naturel, de guerre, quand le pays n'allait pas bien, on changeait l'air pour conjurer la mauvaise période. Mais finalement, en 1868, on a décidé par la loi qu'il n'y aurait plus qu'une ère par empereur. Il faut savoir que dans la constitution d'après-guerre de 1947, rien ne concerne le système des ères. Ce qui veut dire que durant une certaine période, le système des ères a continué d'être utilisé sans aucune base légale. Puis est arrivé un moment où l'on s'est dit que cela ne pouvait pas durer, donc on a fait une loi pour acter l'utilisation des ères. Et l'on s'est rendu compte alors que plus de 90% de la population utilisait au quotidien le système des airs et aurait considéré comme dangereux qu'ils disparaissent. D'où la loi qui fait qu'aujourd'hui, l'usage des airs repose sur une base légale. Le système des airs a ses défenseurs et tout laisse penser que cela va durer, qu'on continuera à l'avenir de les utiliser.
Et donc, on l'a entendu, Karen, nous sommes rentrés dans l'ère Reiwa, qui a une musique d'ailleurs pour l'accompagner. Tiens, on peut peut-être l'écouter, cette fameuse musique. Voilà. Et c'est fou, Karine, j'ai l'impression d'entendre de la K-pop coréenne. Je ne sais pas si ça existe, la K-pop, chez vous, mais on sait qui a composé cette musique, on sait d'où ça sort, pourquoi il y a ce symbole-là.
Oh oui, mais c'est très officiel, c'est un des boys bands qui cartonne, ils s'appellent les Golden Bombers. Bah oui, en plus, ils plagient un autre boys band qui cartonne encore plus avec une chanson qui, je vous le donne en pile, s'appelle USA. Ça s'invente pas.
Ah bah écoutez, tout ça est totalement raccord avec le Japon. En tout cas, on a beaucoup dit que l'atmosphère cette fois-ci est plus festive, puisque d'habitude, effectivement, quand on change d'air, c'est à la mort d'un empereur. Est-ce que c'est vrai que c'est plus festif? Est-ce qu'on sent quelque chose de particulier au Japon aujourd'hui? On a plutôt le sentiment que c'est un pays qui ne s'arrête jamais de toute façon de travailler, d'avancer. Donc, est-ce qu'on sent quand même une atmosphère particulière ou pas?
Ah oui, si, quand même. Il suffit d'aller dans les commerces. Hein. Vous allez dans les commerces et puis vous voyez les soldes de la fin de l'ère Essai jusqu'à hier, et puis les soldes du début de l'ère Reiwa. Donc, au commerce, tout est bon au Japon. Donc, on est dans cette ambiance-là où on se serait pas permis, par exemple, de faire la même chose quand on est en deuil parce que l'empereur précédent est décédé. Cette fois-ci, il est vivant et bien vivant, et donc on en profite, et surtout commercialement.
Et vous allez nous le prouver tout de suite. Vous avez rencontré cette dame. Tiens, on va l'écouter d'abord.
Un changement d'air aussi joyeux, c'est vraiment bien. La fois précédente, l'empereur Showa venait de décéder. On a été forcés à la retenue. Mais cette fois, on est au contraire beaucoup plus heureux.
Voilà, c'est ce que vous nous racontiez, Karine, cette autre interview que vous avez été pêchée dans un magasin.
Et vous voyez ici la boutique du Parlement, où 98 boîtes de gâteaux Manju Reiwa ont été mises en vente. En une heure, tout est parti.
Voilà, au moins la bonne nouvelle, les gâteaux sont partis, ceux de l'ancienne ère et de la nouvelle ère. Mais Karine, le folklore, c'est une chose. Est-ce qu'il va être regretté, ce vieux Akihito? Est-ce que les Japonais l'aimaient, cet empereur-là?
Alors, tout dépendra de l'attitude de son fils Naruhito, mais effectivement, il est beaucoup aimé parce qu'il a su susciter une affection des citoyens pour la bonne raison qu'il leur en a donné. Il leur en a donné beaucoup. Il a répondu présent quand le peuple en avait besoin et c'était vraiment nécessaire. Et en cela, c'était bien vu de la part des Américains à la fin de la guerre de laisser l'empereur en place parce qu'effectivement, alors c'est pas arrivé tout de suite, mais Akihito, qui a été le premier empereur intronisé sous la nouvelle constitution, eh bien, a su donner une substance au rôle très abscond qui était décrit dans la constitution de symbole de l'État et de l'unité du peuple. Il lui a donné une force à ça et c'est pour ça qu'il est aimé.
Mais on dit qu'il a modernisé je ne sais pas comment on appelle ça, le rôle de l'empereur. Est-ce qu'il l'a réellement modernisé? Est-ce qu'il s'est, on a vu qu'il s'était montré un peu plus, mais finalement pas tant que ça. Est-ce qu'on peut espérer imaginer une autre figure de l'empereur aujourd'hui?
Alors, il a fait bouger les lignes avant même d'être empereur, Akihito, du temps où il était prince héritier. D'abord parce qu'il a choisi d'épouser une roturière, ensuite parce que il l'a épousée par amour, ce qui n'était pas le cas avant. Il a élevé ses enfants avec elle, ce qui n'était pas le cas avant. Ils étaient donnés à des précepteurs, les futurs empereurs. Donc, il a fait bouger ces lignes-là et surtout, en fait, il a, de façon très très subtile, réussi à faire passer des messages et notamment à exprimer les remords du pays pour les exactions qui étaient commises pendant la guerre au nom de son père, l'empereur Hirohito. Et en ça, c'est très très fort.
On l'a vu, cet empereur. Nous, l'image qu'on a, c'est celle de Fukushima. Et au fond, en vous lisant, et quand on en parlait ensemble, y compris cet après-midi, Karine, on a le sentiment que ça a été aussi l'empereur des catastrophes, en fait, ce Akihito.
Oui, malheureusement pour lui, son ère a été marquée par de très très nombreuses catastrophes, pas seulement des catastrophes naturelles. Il y a eu un attentat au gaz sarin en 95 dans le métro de Tokyo. Il y a eu l'accident nucléaire de Fukushima. Donc, effectivement, toutes ces catastrophes, tous ces sinistres l'ont obligé à se mettre devant et à parler au peuple. Et on s'est rendu compte, vous parliez de Fukushima et du tsunami, on s'est rendu compte à ce moment-là de l'importance de cet homme, en fait. Et pas seulement quand on est japonais, mais même quand on habite simplement au Japon, même si on est étranger, à ce moment-là, ce message-là, il était puissant, il était nécessaire. Et c'est de là que découle la résilience, la témérité, la patience, la sérénité du peuple japonais. C'était essentiel parce qu'il est au-delà des contingences politiques. Et que les messages politiques, à ce moment-là, ils parlaient pas au peuple. C'était le message de l'empereur qui parlait au peuple.
Mais est-ce que ça veut dire que le prochain Naruhito devra avoir un rôle similaire au fond et qu'il ne faut pas moderniser excessivement au fond ce statut d'empereur parce que précisément il risque de perdre ce que vous êtes en train de nous raconter là?
Voilà, alors ça c'est une opinion qui effectivement apparaît. D'une part, il faut que Naruhito continue ce travail de présence aux côtés de la population quand elle en a besoin. Et d'un autre côté, on lui demande de le faire de façon discrète parce qu'il ne faut pas galvauder le statut de l'empereur. Et c'est un risque, effectivement, que pointent de plus en plus de personnes en disant, oui, qu'il se montre, mais de façon pas trop visible.
Mais ça veut dire...
Et pas trop souvent.
Et ça veut dire que l'empereur au Japon, au fond, j'allais dire, c'est pas comme la reine d'Angleterre. Il n'y a pas un côté objet pop, objet people, objet de pop culture chez l'empereur au Japon, ou pas?
Non, il est immensément respecté et même s'il y a quelques magazines hebdomadaires un peu caniveaux qui vont un peu chercher dans les poubelles du palais impérial, et ils s'y attaquent à la marge mais pas à l'empereur directement. Ils vont par exemple dire, ah bah la petite fille de l'empereur, elle fricote avec un gars qui est pas net ou des choses comme ça, mais comme de toute façon elle est vouée à sortir de la famille impériale une fois qu'elle sera mariée, bon ça prête pas tant que ça à conséquence. Mais la figure de l'empereur directement, on ne l'attaque pas.
Et alors tiens, vous m'avez mis sur cette voie-là, Karine, parce que j'ai vraiment une question là-dessus. D'abord, il y a deux choses. D'abord, le nouvel empereur a une femme qui a fait une dépression, on en a beaucoup parlé, et lui-même en a parlé d'ailleurs. Est-ce que c'est quelque chose qui préoccupe les Japonais? Et le subsidiaire de cette question, c'est que le rôle des femmes, c'est peut-être en partie d'ailleurs pourquoi c'est si difficile pour cette femme-là, le rôle des femmes quand on est impératrice au Japon, c'est rien. Il n'y a pas d'héritière femme, or elles n'ont ce couple-là n'a qu'une fille. Est-ce que ces sujets-là sont discutés? Est-ce que cet archaïsme, Julia Foïs vient de s'installer, on est pile dessus. Est-ce que cet archaïsme-là, il est réellement discuté au Japon ou pas?
Alors, deux choses sur la femme de l'empereur, effectivement, qui a fait une dépression. Il y a beaucoup de mansuétude de la part de la population vis-à-vis de cela, parce que le prince héritier, avant de devenir empereur, en a beaucoup parlé et a demandé à la population d'être extrêmement gentille avec la future impératrice, qui ne pourra pas remplir toutes ses obligations dès le départ. Ensuite, sur le sujet de la lignée patrilinéaire qui est maintenu et qui a fait débat, mais le débat a été clos à la naissance d'un enfant mâle dans la famille impériale il y a quelques années. Il va revenir forcément sur le dessus de la pile, ce dossier, parce que sans cela, effectivement, il y a un risque d'extinction de cette lignée. Donc, le gouvernement Abe s'est engagé, après l'abdication, à rouvrir le débat sur la continuité de la famille impériale, sachant quand même que le Premier ministre lui-même a dit à plusieurs reprises que jusqu'à présent, la lignée patrilinéaire, en tout cas l'ascendance mâle, avait été préservée depuis 2000 ans et qu'il fallait réfléchir à comment on allait faire sans s'engager sur le terrain très dérapant de dire « bon, ouvrons la succession à des femmes ». Mais de toute façon, la question, elle viendra, elle se posera obligatoirement.
Voilà, et n'allons pas trop vite quand même, je parle sous le contrôle de Julia. Attention, parce qu'après 2000 ans, ça va être un sacré changement. Je voudrais qu'on écoute rapidement, Karine, des gens que vous avez rencontrés et qui nous disent ce qu'ils souhaitent pour cette ère-là. Et c'est assez instructif pour la société qu'est le Japon. Écoutez juste rapidement.
Ça serait bien qu'il n'y ait plus de catastrophe naturelle.
D'abord la paix, bien sûr. Pas de bagarre, une bonne entente, pas de guerre. C'est le plus important. La paix.
Alors évidemment, c'est le genre de choses qu'on dit dans ce genre de circonstances, mais j'aime assez l'idée de surtout plus de catastrophes naturelles, ce qui rejoint bien ce que vous disiez effectivement du père, du précédent empereur, qui au fond a été celui qui a essuyé les larmes des Japonais à de multiples reprises.
Oui, c'est une belle expression, essuyer les larmes des Japonais. C'est vrai que les Japonais sont pas dans une période où ils voient un avenir radieux. Hein. C'est vrai que tout le monde vous dira « kudarizaka », qui veut dire la pente déclinante. Et donc, on espère, mais y croit-on vraiment qu'un nouvel empereur pourra donner un nouveau message à cette population qui vieillit qui n'a plus de bébé, quoi. Plus assez, en tout cas.
Et qui, donc, est en train de changer d'air. Merci mille fois. Merci pour ces explications, Karine Nishimura. Et vous êtes toujours la bienvenue, évidemment, dans Un jour dans le monde. Merci encore.
France Inter. Fabienne Saint-Esse. Un jour dans le monde.
La suite, ça se passe en Côte d'Ivoire où les Italiens ont des actions qui semblent fonctionner pour aider ceux qui songeaient à émigrer à avoir un plan B éventuellement sous les radars. Et Amélie Perry avec des bananes en Pologne. Vous verrez aussi que spolier un film peut vous envoyer directement à l'hôpital. La chronique pour tous est Julia Foyce. Bonsoir Julia.
Bonsoir tout le monde.
La Belle au bois dormant n'a pas demandé qu'on l'embrasse. Donc.
C'est ça, d'où quelques petits pépins en Catalogne. On parlera également de l'opportunité du placement de la gousse d'ail dans les parties intimes.
Très bien. Le monde à l'envers.
Et bon appétit.
Je vous en prie. Le monde à l'envers. Et Franck Madvon. Franck, bonsoir.
Bonsoir, Fabienne.
Cette vidéo de Bagdadi, Franck, c'est la preuve que l'État islamique va bien, même sans territoire, au fond. C'était ça le message.
Oui, c'est ça, que le groupe État islamique n'est pas vaincu et qu'il est peut-être même plus actif que jamais.
On verra ça ensemble. Il sera autour de 18h55. À tout de suite, le tour de la planète continue. Il nous emmène en Californie. Fabrice Lagle, qui réalise le 18-20, est super fan de Billie Eilish, Bad Guy. Creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you, oh please. I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Ah oui, d'accord. On m'avait dit la fin est en pièces détachées, c'est vrai. La fin est en pièces détachées. Billie Eilish, Bad Guys, Madame, Messieurs, Amélie Perrier est dans la place et elle passe sous les radars.
France Inter.
Good evening and welcome.
Je размахивал копьём.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Amélie, en Pologne, la nouvelle arme de rébellion est jaune, elle est sucrée, elle s'épluche facilement.
Vous avez deviné ce que c'était ?
Une banane.
Une banane, effectivement. Des centaines de manifestants se sont retrouvés hier devant le musée national de Varsovie pour manger des bananes. Un moyen de dénoncer avec pas mal d'humour une tentative de censure. Ce couple de sexagénaires se filme, par exemple, en plein acte de résistance.
Tego banana. Alors
voilà, ils croquent goulûment dans leurs bananes devant les grilles du musée. Et sur les réseaux sociaux, ils ne sont pas seuls. Le mot-clé « Banana Gate » est devenu viral.
Work all night and I drink a rum.
On y poste, hein, par exemple, cette chanson d'Harry Belafonte, vous la connaissez tous. Le titre, c'est Banana Boat Song. Mais pourquoi cette révolte des bananes?
Oui,
eh bien, parce que le directeur du musée de Varsovie a fait retirer de la galerie des 20e et 21e siècles l'œuvre de l'artiste polonaise Natalia LL, intitulée L'art de la consommation. C'est un film muet de 1975. La jeune femme, face caméra, dévore une banane de manière plutôt suggestive. Le directeur y a vu un traitement des questions de genre et a considéré que son musée n'était pas l'endroit pour ça. Des offensives contre la diversité sexuelle fréquente dans cette Pologne conservatrice. La semaine dernière, c'était le chef du parti au pouvoir, conservateur et nationaliste, qui dénonçait tout à la fois la communauté LGBT, la théorie du genre et des recommandations de l'OMS. Pour Jarosław Kaczyński, ce sont des menaces à l'identité, à la nation et à l'État polonais. Mangeons des bananes, lui répondent ses opposants.
Et bien voilà, de la fiction à la réalité, cette fois ça se passe en Italie.
Un jeune homme de 18 ans a été poignardé à Naples. Il s'appelle Artem Tkachuk et on le connaît d'abord comme acteur. Voilà, acteur dans le film Piranhas qui sort le 5 juin en France, l'adaptation d'un roman de Roberto Saviano. Roberto Saviano, connu et menacé de mort pour ses récits sur la Camorra, la mafia napolitaine. Alors Artem Tkachuk, ukrainien, jouait là le rôle d'un membre de gang et d'un dealer de drogue. Il a été attaqué la semaine dernière par ce qu'on appelle à Naples les baby gangs, des bandes de très jeunes délinquants. Deux coups de couteau, son ami a été passé à tabac, leurs jours ne sont pas en danger. Mais la police envisage qu'il ait pu être agressé à cause de son rôle dans le film. Ce problème des baby gangs est devenu aujourd'hui en Italie un enjeu politique. Un jeune sur 15 à Naples en fait partie. La Ligue, le parti d'extrême droite au pouvoir, veut par exemple abaisser l'âge de la responsabilité pénale en Italie de 14 à 12 ans.
Et puis Amélie, un film qui rend fou, ça se passe à Hong Kong.
Énorme blockbuster, Avengers Endgame.
If we do this, we'd be going in short-handed.
Yeah, you mean because they killed all our friends?
We owe this to everyone who's not in this room to try.
Alors cela faisait partie de la communication autour de la sortie du film. Les frères Russo, les réalisateurs, avaient publié une lettre ouverte pour demander au public de ne surtout pas spoiler l'intrigue. Spoiler en anglais, c'est raconter la fin, révéler qui est le meurtrier, divulgâcher, comme on dit au masque et à la plume.
Mais chez les Québécois surtout,
aussi,
ils l'ont piqué aux Québécois.
Bon, allez, on leur rend.
On les embrasse.
Mais un homme à Hong Kong n'en a fait qu'à sa tête apparemment. À la sortie du cinéma, il s'est mis à tout déballer en provoquant la colère et la violence de ceux attendant la prochaine séance. La photo, la photo de son visage ensanglanté a fait le tour des réseaux sociaux. Alors on ne sait pas si l'histoire s'est réellement passée aussi simplement. En tout cas, les super-héros de Marvel provoquent des réactions insoupçonnées partout sur la planète. Jusqu'à ce tweet de Bernie Sanders, le socialiste candidat à la présidentielle américaine. Ce qui serait vraiment héroïque, écrit-il, c'est que Disney, propriétaire de la marque, utilise les bénéfices tirés d'Avengers pour mieux payer ses employés au lieu de reverser plus de 65 millions de dollars à son PDG Bob Iger. Plus de 1400 fois le salaire moyen chez Disney. Car oui, Avengers, c'est une histoire de gros sous. Le film pulvérise tous les records au box-office mondial. Si l'on estime qu'il a coûté autour de 400 millions de dollars, il a engrangé lors de son premier week-end dans les salles 1 milliard 200 millions de dollars. Des super-pouvoirs qui peuvent rendre fou, effectivement.
Absolument. Si vous voulez, je vous divulgâche l'épisode 3 de la saison 8 de Game of Thrones.
Allez-y, vous allez avoir des problèmes.
Un petit peu, je crois, je le crains. Je suis pas courageuse à ce point-là.
France Inter.
Doha. Harare. Jérusalem.
Mecca. Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul. Washington.
São Paulo.
Beyrouth. France Inter.
Et c'est en Côte d'Ivoire que nous emmène l'escale reportage d'un jour dans le monde ce soir, en Côte d'Ivoire où l'Italie investit de plus en plus pour lutter contre l'immigration irrégulière. Bonsoir Amandine Réau.
Bonsoir.
Amandine, il y a encore 2 ans, la Côte d'Ivoire était l'une des plaques tournantes de la migration clandestine, la plaque tournante. Depuis, l'Italie finance des ONG qui sensibilisent au risque de la traversée et propose aussi des formations aux migrants de retour, aux migrants potentiels pour qu'ils trouvent un travail et une stabilité chez eux. Et on écoute ce que ça donne.
Quelques habitués passent commande à Henri Clotano, gérant d'une petite cafétéria à Abobo, une commune défavorisée d'Abidjan. À 43 ans, ce migrant de retour a fondé Diaspora, une association d'une trentaine d'Ivoiriens revenus de Tunisie ou de Libye.
Nous sommes des étrangers encore chez nous. Alors pourquoi on a dit à Diaspora? Nous sommes comme des orphelins chez nous parce que les moyens on n'a pas. La famille rejette certains.
La machine à marche. Henri Claude est le grand frère du quartier, un appui essentiel pour l'ONG italienne AFSI qui lutte contre la migration irrégulière avec les financements du Vatican. Aujourd'hui, Henri Claude conseille Abdoulaye Barro. Ce mécanicien, père de 3 enfants, est tenté de prendre la route de la migration. Avec seulement 90 euros par mois, le salaire minimum, il ne s'en sort plus.
Si tu as vu que la dernière fois, il t'a appelé, qu'il veut te voir. Voilà, parce que j'ai quelque chose en tête depuis longtemps.
Henri Claude a mis Abdoulaye en contact avec AFSI, le but de l'ONG italienne, lui trouver une formation qui l'empêche de partir illégalement en Europe. Laurent Ayemou, chef du projet Migration.
Il faut d'abord les identifier sur la base d'une base de données qui existe déjà avec l'OIM, avec des critères bien définis, parce que ce n'est pas tout le monde qui veut partir. Donc il y a des enquêtes de terrain à mener qui nous permet de ne pas aider n'importe qui, n'importe comment, et de le faire avec leur consentement, surtout avec eux. Parce que voyez-vous, d'autres, beaucoup ont dit qu'ils veulent repartir. Si on veut leur donner tout de suite une somme, entre guillemets 600 000 cash, ils vont repartir avec cette somme.
Mais les procédures sont longues. Un mois et demi plus tard, Abdoulaye Barro attend toujours des nouvelles. L'ONG italienne veut s'assurer de la sincérité de sa démarche. En 2 ans, 250 personnes bénéficieront d'un appui financier de 750 à 1500 euros. L'Italie investit de plus en plus en Côte d'Ivoire. Le gouvernement finance directement 8 ONG liées à la lutte contre la migration irrégulière. Stefano Lo Savio, ambassadeur d'Italie en Côte d'Ivoire, dévoile cette politique amorcée en 2016.
Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous?
Ça va, merci à vous.
Je vous en prie. Très
merci.
Bien.
Et là, l'Italie a décidé d'entamer une nouvelle approche pour attaquer, si je peux le dire, les raisons profondes de la migration. On a visé 2-3 secteurs grâce à l'activité des ONG ici à Côte d'Ivoire, qui sont surtout l'information, la sensibilisation, mais aussi la tentative de créer des conditions de travail ici dans les pays de départ, je dirais.
En 2 ans, l'Italie a investi 7 millions d'euros dans le pays, avec officiellement plus de 3000 personnes formées et plus de 3000 micro-entreprises financées. Pour l'Italie, la Côte d'Ivoire est un pays stratégique.
La Côte d'Ivoire, on peut la considérer comme un poumon. C'est le pays le plus riche de la sous-région. Si on aide la Côte d'Ivoire, on aide aussi les pays de la sous-région qui trouvent ici en Côte d'Ivoire des occasions de travail qu'ils ne trouvent pas dans leur pays. Parce qu'ici, il y a, je dirais, l'humus nécessaire. C'est un pays où il y a des infrastructures, c'est un pays agricole, c'est un pays où il y a beaucoup de terrains à cultiver. C'est un pays qui a toutes les potentialités nécessaires pour entamer une activité économique.
Retour à Abobo, dans le centre de formation Yarani. Aujourd'hui, c'est cours de pâtisserie pendant 3 heures. Au menu, confection de mini-pizzas et de pâte à pain. Les 31 élèves sont toutes des femmes entre 18 et 40 ans. En Côte d'Ivoire, un quart des migrants sont des migrantes. Une spécificité à prendre en compte, ELIS, une autre ONG financée par le ministère italien des Affaires étrangères, propose des formations uniquement pour les jeunes filles, pâtisserie, hôtellerie, aide-soignante, etc., des cursus adaptés aux besoins des entreprises. Prisca a 18 ans, elle espère ouvrir son restaurant. Pour elle, cette formation est surtout un tremplin avant de tenter sa chance en Europe par la voie légale.
J'ai trop envie de partir en Europe. C'est mon rêve, il faut aller travailler là-bas.
Qu'est-ce qui vous attire là-bas?
D'abord, à Paris, la Tour Eiffel, j'aime bien la Tour Eiffel.
On vous a parlé de l'immigration clandestine?
Oui, oui, on nous a parlé. Il y a d'autres qui montent sur l'eau pour aller en France, mais ils n'arrivent pas, ils meurent dans l'eau. Là. On nous dit que ce n'est pas bon. Je sais que je vais arriver en France avec le diplôme et travailler.
L'ONG a un discours plus pragmatique. Anna Chiara Moltoni, chef de mission Élis en Côte d'Ivoire.
Il y a des jeunes filles qui ont le rêve de venir en Europe, mais ils n'ont aucune idée. On est ici justement pour aider les gens ivoiriennes. Le message, ce n'est pas « tu ne dois pas partir, jamais ». On peut justement informer, ça c'est notre rôle, et donc donner une alternative concrète.
Élise se félicite du fort taux d'embauche des femmes diplômées. Si les plus âgées restent, les jeunes filles rêvent de partir vers un Eldorado européen toujours plus difficile à atteindre.
Amandine Réau pour le reportage, merci beaucoup. Et on continue avec Geoffrey Oreyama pour vous accompagner. Yeah, yeah, yeah. Aussi génial, cette chanson. Ouais. Allez, mesdames et messieurs, vous l'avez entendu, voici Julia Foyce, s'il vous plaît.
France Inter.
So I want all the girls that a new day is on the horizon.
Fabienne Saint-Esse.
You are scared of girls.
Bonjour tout le monde.
Me too.
La chronique pour tous de Julia. Chaque semaine, vous nous donnez des nouvelles.
Dites donc,
femmes dans le monde.
Semaine, oui.
Mais ça, c'est à cause de vous, parce que vous dites des choses tellement terribles dans cette chronique, bonne ou mauvaise. En tout cas, on commence par le tweet de la semaine.
C'est une gynécologue américaine qui l'a posté. Ça commence comme ça. Pourquoi il ne faut pas mettre d'ail dans son vagin? What? Parce que donc, certaines se mettent de l'ail dans le vagin. Eh bien oui, et pas certaines. Elles sont même de plus en plus plus nombreuses à le faire, encouragées en cela par des youtubeuses et toute cette nouvelle tendance végétaro-gynécologique. La chimie, on se méfie, la pilule à la poubelle, vive le retour au naturel parce que j'aime l'écologie, la planète et la vie aussi. Alors vive le persil. Oui, le persil toujours dans le vagin, hein, qui permettrait de faire avancer la date des règles. Et tant qu'à faire, vous me remettrez un petit peu de yaourt par-dessus tout ça pour protéger la flore, ou encore de l'œuf de jade pour doper la faune et son énergie sexuelle. L'ail, lui, permettrait de se prémunir contre les mycoses, mais dans ce tweet, le docteur Jennifer Gunter le rappelle. Certes, l'ail contient un antibiotique naturel, la siline, qui peut avoir des propriétés anti-germes, pour peu qu'elle soit extraite en milieu stérile, et à condition, pour que ce soit efficace, de les réduire en purée. Je vous laisse imaginer ce que ça peut donner, hein, de l'ail écrasé sur des muqueuses aussi sensibles. Oui, ça pique. Pire, cette fameuse gousse d'ail peut contenir une bactérie provenant de la terre dont elle a été extraite et qui va adorer pouvoir se balader en milieu humide. Bref, les filles, les femmes adeptes de YouTube et de leur tuto écolo intime, l'ail dans le vagin, eh ben on fait pas.
Je suis sans voix, en fait. Et c'est comme les talons, donc au Japon, on ne fait pas non plus.
En tout cas, on aimerait bien ne plus faire, ne plus avoir l'obligation systématique de porter des talons hauts sur le lieu de travail. C'est un mouvement de colère qui anime les Japonaises depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux. Tout commence en janvier, lorsqu'une jeune femme, actrice et comédienne, s'indigne de cette coutume qui oblige les salariés à travailler perchés sur les talons de 5, de 7, de 12. Dans la foulée, elle lance ce hashtag, ce mot-clé, Kutu, référence directe au mouvement MeToo, évidemment, mais aussi à deux termes japonais. Attention Fabienne, je suis bilingue.
Allez.
Kutsu pour les chaussures et Kutsu ou pour la douleur. Très rapidement, ce
très japonais aujourd'hui
devient viral. Elles sont des milliards à compter les blessures, la fatigue, des fins de journée où les pieds font si mal qu'il devient tout simplement impossible de faire correctement son travail. Depuis, une pétition circule sur change.org, adressée au ministère japonais de la Santé, du Travail et des Affaires Sociales. Elle demande tout simplement à ce que les femmes aient le droit de porter des talons ou pas. C'est très sérieux cette pétition et même ça s'inspire d'un mouvement similaire né en Grande-Bretagne en 2016. C'est encore une actrice qui l'avait lancé, licenciée pour avoir refusé de porter des talons hauts. Elle avait fini par obtenir la création d'une commission parlementaire pour assouplir les codes vestimentaires des femmes au travail, ce qui fait de mes talons bel et bien l'objet de la semaine.
2019, bonjour. Et sinon, pour l'image de la semaine, nous avons...
Vous l'avez tous en tête, un château étrangement endormi, un prince beau comme le jour, et courageux, et valeureux, et bientôt amoureux, drapé dans cette cape rouge, passion, à moins que ce ne soit framboise écrasée, je sais pas, il y a débat. Traverse la cour du château, grimpe les escaliers, 4 à 4, fait irruption dans un donjon. Elle est là, qui l'attend, la belle endormie, sa longue et blonde chevelure encadrant un visage dessiné par les anges, certainement, les deux mains croisées sur sa poitrine, tenant une rose couleur framboise écrasée, ou peut-être rouge passion, je ne sais pas, il y a débat. Elle semble loin, très loin de nous, mais le prince s'assied sur le rebord du lit, il se penche vers la belle, il l'embrasse, et miracle, elle se réveille, et là, elle lui met sa main dans la gueule, et elle lui dit « Non mais oh, tu m'as demandé à moi si j'avais envie de t'embrasser !» Ça, ce serait la version féministe du conte de Grimm, mais même Disney passe outre le consentement de la jeune femme, et c'est justement pour ça que des militantes catalanes ont demandé à plusieurs bibliothèques de retirer le livre de leur rayon. Dans la foulée, elles ont fait de même avec le petit chaperon rouge. Là, c'est plus le côté « je t'apprends dès toute petite à faire les courses, les ramener à la maison et surtout à fermer ta bouche hein, » qui les agace.
Mais alors, on peut faire ses courses sur Internet, c'est nul ce chaperon.
Qui sait ce qu'il adviendra bientôt de Blanche-Neige, de son esclavagisme et de ses 7 nains lubriques. Oui, ils le sont, Fabienne Lubrique. Quant à Podane et à son père incestueux, comment vous dire ? Côté faisons l'inventaire de nos inconscients collectifs, eh ben il y a du boulot.
Allez, Julia Foy, rentrez chez vous maintenant, je vous en supplie. Je vous en supplie. Allez.
Le 18
mardi prochain, ça y est, je l'ai.
Fabienne Synthèse sur France Inter.
Et le monde à l'envers, signé Franck Madvon. Ce soir, Franck, pour la première fois depuis 5 ans, le chef présumé du groupe État islamique apparaît dans une vidéo de propagande qui a été diffusée hier. Aboubakar el-Baghdadi serait donc bien vivant, il est aux commandes. L'organisation a été vaincue territorialement, c'est vrai, mais elle est plus active encore que jamais. C'est bien votre monde à l'envers.
Oui, il y a plusieurs éléments, Fabienne, à retenir de cette vidéo qui dure un peu moins de 20 minutes. D'abord, on y voit un homme visiblement en forme, bien portant, un peu plus corpulent même qu'en 2014, sa dernière apparition lors d'un prêche dans une mosquée de Mossoul. Aboubakar el-Baghdadi est assis contre un mur blanc, les jambes croisées, il porte une longue barbe teintée de henné, une référence au prophète selon des spécialistes. Un fusil d'assaut est posé à sa droite, il s'adresse à des hommes au visage flouté qui lui remettent des dossiers. Le message est clair, Baghdadi se présente comme un chef militaire. Je tiens les rênes et notre organisation l'émission a toujours sa structure, sa hiérarchie. La mise en scène rappelle en fait les vidéos d'Al-Qaïda, celle d'Oussama Ben Laden ou de Zarqawi, son ancien chef en Irak, mort en 2006.
Et les propos de Baghdadi, Franck, méritent aussi qu'on s'y attarde.
Oui, le chef du groupe État islamique parle d'une longue bataille, d'une guerre d'usure contre l'Occident. Là aussi, le vocabulaire rappelle les messages d'Al-Qaïda. Par ailleurs, Baghdadi évoque de nombreuses crises mondiales, l'Algérie, le Soudan. Il mentionne également, dans une partie de la vidéo où il n'apparaît pas, les attentats de Pâques au Sri Lanka. C'est un moyen de dater le document récent, donc, mais aussi de montrer que le groupe État islamique est actif, présent partout, que son idéologie a fait des émules. Baghdadi parle de 92 opérations menées dernièrement dans 8 pays. Il cite des combattants étrangers de l'organisation en Libye, au Burkina Faso, au Mali. Ces hommes lui remettent des dossiers, on le disait, consacrés aux différentes provinces de l'État islamique, Syrie, Irak, bien sûr, mais aussi Somalie, Yémen, Turquie.
Et pour Baghdadi, Franck, l'enjeu, c'est plus la conquête de territoire.
Non, Baghdadi reconnaît d'ailleurs la chute de Baghouz, le dernier vestige du califat autoproclamé. Il n'y a plus d'État islamique à proprement parler. Ce vaste territoire entre l'Irak et la Syrie, contrôlé par des dizaines de milliers de combattants, mais le projet de l'organisation a survécu. Son idéologie s'est propagée. Aujourd'hui, plus encore qu'hier, les militants du groupe terroriste sont capables de frapper dans le monde entier. Les plus fidèles n'ont pas quitté l'organisation et d'autres militants la rejoignent chaque semaine. Pour ses partisans, Daesh est un succès et son idéologie est peut-être plus forte que jamais.
Et le groupe État islamique devrait donc encore faire parler de lui dans les mois, dans les années à venir.
D'abord, il reste présent en Irak et en Syrie. Il n'a plus de fief, certes, mais des milliers de combattants sont parvenus à fuir les zones de combat, à se fondre dans la population. Des attaques attribuées au groupe État islamique se produisent chaque semaine en Syrie. Des dizaines de milliers de personnes liées à l'organisation, hommes, femmes, enfants, sont détenus ou vivent dans des camps. La plupart sont entre les mains des Kurdes qui menacent de les libérer si les Américains et leurs alliés les abandonnent face aux Turcs. Et le groupe terroriste compte encore des soutiens dans le monde entier. Il a des branches en Afrique, en Asie, des sympathisants en Occident. Les experts en sont convaincus. Après les attentats au Sri Lanka, il faut se préparer à d'autres attaques. Cette vidéo, Fabienne, est aussi une mise en garde.
Franck Madvon et Le Monde à l'envers. Merci beaucoup Franck et on se retrouve demain évidemment dans Un jour dans le monde. Nous on reste ensemble pour Le téléphone sonne, ne changez rien, on s'occupe de tout. Tiens, je vous remets le thème dans l'oreille ce soir. On va parler de fertilité et d'infertilité puisque l'INSERM vient de faire le point sur les recherches. Profitons-en nous aussi pour nous arrêter un instant sur tout ce que vous voulez savoir. D'ailleurs, le standard est là pour vous au 01 45 24 7000. L'endométriose, puisque le sujet n'est plus tabou, enfin, la congélation d'ovocytes aussi, par exemple, l'environnement, est-ce que c'est l'une des causes de l'infertilité ou pas? Est-ce qu'on peut combattre l'âge de l'infertilité chez les femmes, puisque l'époque nous dit des choses aujourd'hui sur l'âge du premier enfant? Que disent les hommes également? On en parle donc au 01 45 24 7000. Il est 19h sur Inter.